La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Il reste une cinquantaine de jours avant la présidentielle américaine et plus on s'approche du jour J, Camille, plus les commentateurs politiques aux États-Unis redoutent le pire pour cette élection.
Et ce n'est pas cette décision de justice débusquée par le Washington Post qui va les rassurer. Un juge fédéral vient, apprend-on, de suspendre à la demande de 14 États la réforme des services postaux qui avait pour conséquence de retarder considérablement, voire même, disons-le franchement, d'empêcher en grande partie l'organisation du vote par correspondance, ce vote indispensable en ces temps d'épidémie de Covid-19. Ce vote par la poste, on l'avait déjà dit ici, dont Donald Trump n'a jamais voulu et qu'il fait tout pour discréditer et donc désorganiser. Le juge fédéral, ce jeudi, a donc reconnu que la réforme opérationnelle de l'US Postal était bel et bien une attaque politiquement motivée de nature à perturber l'élection. Mais les tentatives de manipulation de ce scrutin ne s'arrêtent pas au vote par correspondance. Dans la revue de gauche The Nation, John Nichols détaille ce qu'il qualifie de stratégie de guérilla juridique à plusieurs millions de dollars déployés par l'administration Trump pour, dit-il, ériger des barrières entre les électeurs et les urnes et, en clair, semer le chaos dans les états clés du scrutin. L'entreprise la plus tentaculaire de l'histoire américaine pour détourner la volonté du peuple, écrit encore John Nichols, a débuté bien avant l'ouverture réelle des bureaux de vote. Elle passe par les tribunaux des États décisifs où des dizaines d'avocats payés par le Parti républicain multiplient les recours avec un même but, empêcher que ne puissent voter ceux qu'ils appellent les électeurs douteux. Le New York Times nous en donne un exemple précis dans l'État de Floride où ces recours ont convaincu une cour d'appel fédérale de prendre une mesure qui va empêcher des milliers de citoyens de voter. Les personnes qui ont été condamnées pour un crime, quel qu'il soit, ne pourront voter que si elles règlent, avant cela, les dettes qu'elles ont contractées auprès des tribunaux, des frais de justice qui s'élèvent bien souvent à des milliers de dollars et qui sont impossibles pour la plupart à rembourser d'ici novembre. Et tenez-vous bien, ça concerne 774 000 personnes rien qu'en Floride et qu'on le veuille ou non, eh bien, ça touche en bonne partie des Afro-Américains dont on sait que Donald Trump craint par-dessus tout qu'il vote massivement pour Joe Biden.
Et à lire la presse pro-démocrate, Camille, c'est tout le système judiciaire américain qui serait détourné pour saborder l'élection.
Et pour le spécialiste de droit des élections Richard Hazen, qui développe son analyse sur le site de CNN, il suffit de regarder comment se comporte le ministre de la Justice Bill Barr pour se convaincre qu'on est bel et bien face à une entreprise méticuleuse d'escamotage de l'élection présidentielle. Ce fidèle parmi les fidèles du président multiplie les discours et les procédures contre les soi-disant risques de fraude autour de cette élection qui serait faussée, dit-il, avant même d'avoir commencé avec des résultats qui seront forcément très peu fiables. Selon Richard Hazen, cette attitude est irresponsable et dangereuse de la part de celui, le ministre de la Justice, donc qui est justement censé être le garant de l'intégrité du scrutin et du respect du droit de vote de chacun. Dans ce contexte, il y a tout à craindre que le perdant ne vienne à contester les résultats, reconnaît le Los Angeles Times, tout en sachant que la complexité du vote, par courrier et dans les bureaux de vote, va sans doute repousser l'annonce officielle de ces résultats bien au-delà du 8 novembre. Et il y a bien sûr la crainte que le camp Trump ne refuse d'accepter une victoire possible de Joe Biden et n'attise la colère de ses supporters les plus radicaux pour semer le chaos. Mais pour faire vraiment le tour de la question, il faut aussi vous dire que ces mêmes électeurs de Donald Trump sont eux aussi convaincus que ce sont les démocrates qui s'apprêtent à manipuler le scrutin et à contester la réélection de leur président. C'est la théorie que développait en début de semaine le politologue Shadi Hamid dans The Atlantic et selon laquelle l'équipe de Joe Biden en cas de défaite ne manquerait pas de raison, c'est vrai, pour en contester les irrégularités, d'autant plus si, comme en 2016, Trump venait à l'emporter sans avoir la majorité du vote populaire. Les démocrates sont aussi accusés d'avoir rassemblé une armée d'avocats pour préparer une guérilla juridique, eux aussi, contre le résultat du vote. Alors, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde semble s'accorder aux États-Unis, c'est sur le fait que cette présidentielle est décidément bien mal embarquée et que, oui, il y a des raisons de se préparer au pire des scénarios.
Un détour à Minsk, en Biélorussie, pour terminer la semaine sur une note positive.
Alors non pas que la situation politique en Biélorussie soit une raison de se réjouir, hein, mais tout de même, avec le Guardian d'hier, je ne résiste pas à partager avec vous cette leçon de courage et détermination que nous donnent ces femmes biélorusses particulièrement mobilisées pour faire tomber le régime d'Alexandre Loukachenko. Ces femmes qui manifestent chaque jour quasiment à Minsk pour obtenir notamment la libération de leur icône révolutionnaire Maria Kolesnikova. Elles ont trouvé un moyen infaillible pour faire battre en retraite les hommes en uniforme qui sont envoyés pour les réprimer. Alors voilà, elle leur hurle dans les oreilles, comme vous pouvez le constater par vous-même, mais c'est déjà très impressionnant. Mais en même temps, elle leur arrache leurs cagoules ou les masques qui leur dissimulent le visage. Et je précise que ce ne sont pas des masques anti-Covid. Ce geste de dévoiler le visage des hommes de main du régime, c'est une vraie stratégie pour faire reculer la violence et le harcèlement répressif dont elles sont victimes. Et l'on connaît les risques que prennent les manifestants biélorusses depuis des semaines, les tortures dont certains sont victimes en prison. Sean Walker, du Guardian, décrit donc comment leur mouvement est organisé pour démasquer les agresseurs, prendre en photo ou en vidéo leur visage, puis les identifier grâce au forum d'internautes, diffuser également leur identité pour montrer à tout le monde, à leurs proches, à leurs voisins qu'ils sont du mauvais côté de la matraque contre le peuple biélorusse. Et ça marche, donc c'est assez impressionnant de voir ces hommes en treillis verts détalés comme des lapins dès qu'ils sont démasqués, comme si, et c'est une réalité, c'était leur anonymat qui leur donnait toute leur force et leur impunité. Vous le verrez par vous-même sur les vidéos de manifestations biélorusses que je vais publier dans quelques minutes sur la page web de cette revue de presse.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale. Il est 7h43 sur France Culture.